C'est une joie d'être nouveau devant vous ce matin. J'aimerais aussi donc remercier mon frère pour cette superbe introduction à mon message ce matin, pour vos prières qui vont vraiment dans le sens de ce que je vais vous partager ce matin dans Marc 15. Avant de commencer, j'aimerais juste prier. Oui Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce moment privilégié que nous pouvons avoir devant toi, avec toi. Que tu puisses maintenant ouvrir nos cœurs à ta parole, que tu puisses aussi mettre tes paroles dans ma bouche, que nous puissions sortir de ce culte fortifié et encouragé par toi. Au nom de Jésus, Amen. Alors, Marc 15 relate la crucifixion de Jésus, les 12 dernières heures de sa vie. C'est le point central des évangiles, mais je pense aussi également de toute la parole de Dieu. C'est le moment le plus fort, je pense, que l'humanité a connu, et on pourrait faire 10, 15 messages sur ce chapitre. C'est tellement riche en exhortations, en instructions, en paroles, que nous pourrions alors en faire des dizaines et des dizaines. Donc, il fallait que je me concentre ce matin sur un point en particulier. Ce n'était pas évident de trouver disons un point spécifique sur lequel j'aimerais m'axer. Et j'ai eu à cœur de prendre la globalité de ce passage de la crucifixion de Jésus sur la croix en recoupant les différents évangiles, ou en tout cas trois des quatre évangiles, de ce que Jésus a dit sur la croix. Et donc, voilà, les sept paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Sept paroles qui ont eu un impact énorme, une portée éternelle sur l'humanité, sur nos vies, sur la vie des contemporains de Jésus. Juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte du passage de la crucifixion, donc je vais lire juste après le passage Marc 15 du verset 21 au verset 39. Notre frère nous a déjà fait une belle introduction à ce chapitre. Nous sommes un vendredi matin, et il est 6h du matin. Dans le chapitre de Marc, vous allez voir qu'il parle de la première heure. Où, au niveau des évangiles, il parle de la première heure de la journée juive. Chez les juifs, ils fonctionnent un peu différemment de chez nous. Ils fonctionnaient à l'époque par période de jour et des périodes de nuit. Donc, ils fonctionnaient toujours par des périodes de 12 heures jour, 12 heures nuit. Que quand on était en été, les heures étaient, disons, plus longues sur les 12 heures du jour, et en hiver, les heures du jour étaient plus courtes que... Voilà, vous suivez un petit peu. Donc, c'était des heures un peu à rallonge, des heures flexibles. Mais là, nous sommes au printemps, donc on peut, disons, considérer que les heures à cette époque étaient équivalentes à nos heures d'aujourd'hui. Donc, nous, 1h60, au temps de la crucifixion de Jésus, on était dans une période où les heures étaient équivalentes à nos heures d'aujourd'hui. Donc juste pour que vous ne soyez pas perdus, j'ai fait une petite chronologie pour que nous puissions suivre, disons, le cheminement et le temps de crucifixion de Jésus sur la croix. Donc première heure de la journée, donc 6h du matin, où le jour se lève, Jésus a été jugé, il est passé par différents jugements, devant Caïphe, le souverain sacrificateur, ensuite devant Hérode, ensuite il est reparti de nouveau chez les souverains sacrificateurs, et ensuite chez Ponce Pilate. Et nous voyons donc sur le début du chapitre 15, le jugement de Jésus, où la foule a fait le choix de condamner Jésus plutôt que Barabbas. Dans la tradition juive, il était de coutume, que lors de Pâques, de libérer un condamné, de libérer un prisonnier. Jésus étant déjà, condamné, ils auraient pu soit libérer Jésus, soit libérer Barabbas. Ils ont fait le choix de condamner Jésus et toute la foule a crié « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Cette foule qui a suivi Jésus, cette foule qui a bu les paroles de Jésus durant tout son ministère, durant ces 3 ans qui venaient de s'écouler, c'est cette foule-là qui a souhaité voir Jésus crucifié. C'est quand même terrible. Marc a, disons, résumé l'histoire de Jésus, le ministère de Jésus dans ses 16 chapitres. Et donc, il a également résumé le temps de crucifixion. Lorsque nous voyons ce passage de la crucifixion dans les évangiles de Matthieu, Luc et Jean, il est bien plus conséquent, bien plus détaillé que celui de Marc. Mais c'est pour cela que voilà, je voulais recouper les paroles de Jésus qu'on retrouve dans les autres évangiles pour qu'on ait une vue d'ensemble sur ce que Jésus a eu comme impact, sur ce que Jésus a dit et fait sur la croix. Souvent, nous rappelons des souffrances de Jésus, des souffrances physiques, des souffrances morales que Jésus a vécues sur la croix, bon, avant et aussi sur la croix. Mais je pense qu'on ne pense pas assez souvent à ce que Jésus a dit, à l'attitude de Jésus sur la croix. Et c'est pour cela que voilà, j'aimerais prendre les 7 dernières paroles de Jésus qu'il a prononcées de sa vie, disons, avant sa mort, sur la croix. Pour résumer le contexte, pour résumer la première partie du chapitre, nous pouvons dire que le diable a lancé toutes ses forces dans cette bataille, dans cette dernière bataille. Nous voyons tout le monde tourner contre Jésus. Ponce Pilate qui accepte, la foule qui veut crucifier Jésus, les souverains sacrificateurs qui se moquent de lui, qui l'injurient, qui le condamnent. Tout se porte contre Jésus. Jésus, il a fait le choix d'aller jusqu'au bout. On arrive à la crucifixion de Jésus. Et avant de commencer, j'aimerais juste vous lire le passage. Pardon. Donc au verset 21 jusqu'au verset 39. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, « il a été mis au nombre des malfaiteurs ». Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix ». Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani ?» Ce qui signifie, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » C'est C'est un passage vraiment puissant, tellement fort, nous pourrons passer des heures à décrire ce passage, à décortiquer tout ce qui est relaté dans ce passage. Maintenant, je vous propose de reprendre les paroles de Jésus dans les différents évangiles et de se concentrer sur la parole que Marc relate. Marc, certes, a résumé donc ce passage, mais il a relaté une parole de Jésus sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Avant cette parole, il y a trois autres paroles que Jésus avait déjà prononcées, et nous allons les voir maintenant. La première parole, il se trouve dans Luc 23, au verset 34. Nous voyons Luc 23, verset 34. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Cette première parole de Jésus, nous pouvons la placer entre le verset 24 de Marc 15 et le verset 25, au moment où Jésus a été crucifié. Nous pouvons voir dans cette première parole que Jésus pardonne. Il est sur la croix. Il vient de souffrir, de se faire maltraiter, torturer. Il est sur la croix. Et là, il demande à son Père de pardonner tous ces gens, ces contemporains qui lui font ce mal. Quelle beauté, quelle parole. Nous voyons par cette parole son amour infini pour nous, son amour infini pour les gens qui l'entouraient, son amour inconditionnel. Pour nous, nous pouvons aussi, maintenant, réfléchir à nous-mêmes. Lorsque les gens nous font du mal, que ce soit physique, que ce soit moral, psychologique, comment est-ce que nous allons nous comporter? Comment nous allons réagir? Est-ce que nous avons aussi ce réflexe du pardon? Est-ce que nous avons aussi cet amour, intuitif dans notre cœur pour tous les gens qui nous font du mal? Est-ce que je suis enclin à pardonner mon contemporain qui me fait du mal, mes proches qui ne me comprennent pas, mes voisins qui font du bruit après 19h, où souvent on se plaint, mais qu'est-ce qu'ils font? Bon, il est juste 19h, ça va encore. Pour nos parents qui nous posent trop de questions, quand on revient tard, ou quand on a aussi fait des petites bêtises aussi, donc à l'école, aux études, n'importe où. Nous avons, et en tout cas là je parle pour moi, donc en premier, toujours ce ressenti d'être mis au rebut, d'être rejeté. Nous avons du mal à accepter ces reproches. Nous avons du mal à accepter ce mal que pourraient nous faire nos contemporains, nos proches, nos amis. Mais ce matin, nous puissions vraiment réfléchir à ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit encore sur la croix à ce moment-là. Jésus a pardonné à ces gens. Que nous puissions aussi avoir à cœur de pardonner aux gens qui nous entourent. Jésus nous a pardonné en premier, que nous puissions aussi maintenant pardonner à notre tour. Nous avons un exemple dans la parole, il s'appelle Étienne, et Étienne, en train d'être lapidé par les juifs de l'époque, il a également dit cette parole, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et Étienne a vu à ce moment-là qu'il a Jésus à la droite de Dieu. Quel exemple aussi pour nous. Nous allons voir maintenant une deuxième parole de Jésus. Je les relate de manière chronologique. Et c'est toujours dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc, au verset 43 maintenant, où Jésus parle aux brigands. Dans l'évangile de Marc, il n'est pas spécifié, relaté que les brigands se moquaient, il est notifié que les brigands se moquaient de Jésus, mais cette discussion n'a pas été relatée dans l'évangile de Marc. Nous allons juste lire le petit passage dans Luc 23, pour avoir le contexte juste avant. Luc 23, au verset 43. Je vais prendre au verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait : Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Ce deuxième brigand a fait le choix. Il a remarqué que Jésus était différent. Il a vu que Jésus était innocent. Et il dit à Jésus : Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce passage, à chaque fois que je le lis, il m'émeut de voir que cette conversion éclair de ce brigand. Il a compris, et là il a eu la foi. Il a dit : Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans le paradis. Et Jésus lui a répondu du tac au tac : Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et tout à l'heure, notre sœur a aussi prié en remerciant aussi Dieu de cette joie que nous aurons un jour lorsque nous rencontrerons ce brigand dans le ciel. Nous verrons un jour ce brigand, cet ancien brigand, dans le ciel. Quelle joie, quelle espérance nous avons de pouvoir retrouver ces gens qui ont cru. Ce brigand, il avait encore quelques heures à vivre sur la croix. Il était en train de mourir, mais il a fait le choix au dernier moment de sa vie. Et c'était un choix avec une portée éternelle. Il est aussi encore temps pour nous aujourd'hui de faire ce choix, de confesser nos péchés au pied de la croix de Jésus. Jésus a fait cette promesse à ce brigand, et cette promesse, elle tient toujours aujourd'hui, encore bien plus aujourd'hui. Nous savons que Jésus, il est ressuscité des morts après cette crucifixion, après sa mort. Et nous savons encore bien plus aujourd'hui qu'il tient ses promesses et qu'il voudrait encore aujourd'hui que nous acceptions qu'il rentre dans notre vie et que nous puissions être un jour avec lui dans le paradis. La troisième parole que Jésus a prononcée sur la croix se trouve dans Jean 19, du verset 26 au verset 27. Ce passage, cette parole, cette discussion plutôt, se trouve juste après la discussion que Jésus a eue avec le brigand. Donc Jean 19, verset 26, « Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, donc c'était Jean, dit à sa mère : Femme, voilà ton fils. » Au verset 27, « Puis il dit au disciple : Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Nous voyons que Jésus aime. Encore sur la croix, il pense à sa mère. Il honore sa mère, il prend soin de sa mère. Le disciple qu'il aimait, donc, c'est Jean, l'a suivi jusqu'à la croix. Nous avons la preuve ici que Jean, il était près de la croix, pour être auprès de Jésus jusqu'au bout. Jésus, il montre ici sa fidélité envers sa mère. Il ne la lâche pas. Il s'occupe encore de ces détails alors qu'il est sur la croix, alors qu'il souffre, alors qu'il a du mal à respirer. Sur la croix, ils étaient donc suspendus d'une manière à ce que leurs poumons soient bloqués et ils mouraient par asphyxie, ils mouraient par suffocation. Et Jésus aurait pu gémir, il aurait pu se plaindre sur lui-même, il aurait pu crier de douleur, penser qu'à lui-même. Dire « Ok, je vais jusqu'au bout, je souffre. » Non, mais il pensait d'abord aux autres. Il était fidèle jusqu'au bout. Il a aimé jusqu'au bout sa mère, ses disciples. Et nous voyons aussi dans cette discussion, cette fidélité de la mère et du disciple. Eux deux sont allés jusqu'au bout avec Jésus, pour le soutenir, pour le suivre jusqu'au bout. Je ne veux pas dire de bêtises, mais... Je pense que c'est le seul disciple qui a suivi Jésus jusqu'à la croix. Tous les autres se sont enfuis. Pierre, nous voyons qu'il a renié trois fois Jésus avant que le coq chante. Il a pleuré amèrement sur le fait qu'il ait renié Jésus. Mais de ce qui nous est relaté, seul Jean est allé jusqu'au bout et a suivi Jésus jusqu'à la croix. Que nous puissions être aussi en retour fidèles auprès de Jésus, envers Jésus, comme Marie, comme Jean. Il est dit aussi dans un des évangiles, je n'ai pas cherché le verset, que Dieu nous dit que si nous sommes fidèles dans de petites choses, dans peu de choses, il nous en donnera aussi des plus grandes. Que nous puissions être fidèles dans toutes les petites choses que Dieu nous met à cœur, dans toutes les petites choses qu'il nous demande de faire, dans les services que nous pouvons rendre à nos amis, à nos frères et sœurs en Christ, à nos voisins, à nos collègues, là où nous sommes. Nous voyons le résultat aussi de cette fidélité de Jean envers Jésus. Jean a eu cette révélation de l'Apocalypse. Il a écrit tout un livre à lui seul. Il a eu toutes ces révélations qu'il ne pouvait pas exprimer avec ses paroles humaines. Des choses tellement fortes, tellement belles, tellement éclatantes, qu'il ne pouvait pas, disons, l'expliquer donc, de manière intelligible. Jean a eu cette grâce, donc a été béni, il a eu cette grâce de pouvoir avoir droit à cette révélation. Et il nous en a fait part. Maintenant, on arrive au bout de ces 3 heures, disons, de crucifixion, et on arrive à la 6e heure, ce qui correspond à la 12e heure, donc disons midi, on fait 6 plus 6, on arrive à 12 heures. Et là, il nous est dit dans Marc, et on va reprendre Marc. Marc 15, verset 33. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Donc jusqu'à 15 heures de l'après-midi. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani ?» Ce qui signifie, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quand je reprends cette chronologie, il me fallait laisser un peu de place pour les autres paroles, mais normalement, les 4 paroles qui ont été prononcées lors de ce moment, disons, de ténèbres, pendant ces 3 heures, entre midi et 15 heures, se retrouvent collés à la fin. Ils se retrouvent collés aux 12 heures. Il fallait que je les sépare pour qu'on puisse voir quand même apparaître les différentes chronologies. Durant ce moment, durant ces 3 heures, il y a eu des ténèbres sur la terre. On a vraiment, je pense, de la peine à s'imaginer qu'est-ce que ça a pu être. Il est midi, le soleil il était à son beau fixe, il était au milieu du ciel, à son zénith, merci. Et là, d'un seul coup, les ténèbres ont recouvert toute la terre. En tout cas, la terre qui entourait la croix, mais je pense que ces ténèbres ont entouré toute la terre entière, tout le globe terrestre. Dieu ne supporte pas la présence du péché. Ça, on le sait. Parce qu'il est 3 fois saint. Mais Jésus, à ce moment-là, il a pris sur lui cette condamnation éternelle que toute l'humanité méritait, que nous méritions, et il est devenu péché pour nous. Il a perdu donc cette relation privilégiée qu'il avait avec Dieu, avec son Père. Vous vous rendez compte? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont un seul, ils font un. Jésus, le Fils de Dieu. Dieu, le Père de Jésus. Et là, Jésus, il est abandonné à lui-même, avec tout notre péché sur ses épaules. C'était donc les 3 heures les plus terribles de la vie de Jésus sur la terre. Et je pense que nous pouvons dire que c'était les 3 heures les plus intenses, les plus fortes que l'humanité a connues. Parce que c'est à ce moment-là que Jésus a expié nos péchés sur la croix. C'est à ce moment-là que Jésus a pris notre faute, que Jésus a pris notre péché. Et Dieu ne pouvait plus être en présence de Jésus. Il ne pouvait plus parler à Jésus. Et c'est pour ça que quand Jésus a crié « Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, il criait à Dieu. Il était désespéré, il était abandonné, il était voué à lui-même. Et Dieu ne pouvait pas lui répondre. Il a eu ce silence de Dieu. Il a eu le silence de ce Père. Quel moment terrible pour Jésus. Et je pense que c'est aussi pour cette raison que Marc s'est concentré sur cette parole-là, sur cette seule parole qu'il a relatée dans son évangile, parce que c'est cette parole qui a montré donc tout le poids, tout le sens de la croix pour l'humanité, que Jésus a été abandonné de Dieu pour un temps, pour ces 3 heures. Que maintenant nous puissions aussi nous rendre compte que si un jour nous nous éloignons de Dieu, de Jésus, si nous commençons à vivre notre vie, si nous abandonnons Dieu, mais il aura toujours ce cri de désarroi. Mais Samuel, Samuel, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que il veut cette relation privilégiée avec nous. Il veut garder cette relation privilégiée avec chacun d'entre nous, nous qui avons aussi fait ce poids de croire qu'il est mort pour nous sur la croix. Nous qui avons cru que c'est pour nous que Jésus a expié ses péchés, a expié nos péchés, pardon, sur la croix. Nous allons poursuivre toujours dans cette période de ténèbres. La cinquième parole de Jésus. Et là, nous le trouvons dans Jean 19, au verset 28. Jean 19, verset 28. Donc, cette parole, chronologiquement, nous pensons, se situe après que Jésus ait crié, donc, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces 4 paroles se sont produites, ont été prononcées dans le même moment, à la fin de ces 3 heures de ténèbres. Donc après, nous pouvons difficilement, choisir dans l'ordre de ces paroles. Mais cela nous donne une vision globale. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. Nous pourrions faire un message sur ce verset, parce qu'il a une portée prophétique. Il accomplit de par cette parole, une prophétie qui a été prononcée dans l'Ancien Testament. Mais ce matin, j'aimerais simplement prendre un autre aspect de cette parole de Jésus. Que Jésus nous montre encore sur la croix qu'il est pleinement homme. Il nous montre sa pleine humanité. Là, il nous montre un besoin physiologique. Il a soif. Jésus a aussi eu des manques. Jésus a aussi eu des besoins sur la terre. Il était humain comme nous. Il a revêtu cette enveloppe humaine. Il était un homme comme nous. Mais quel encouragement pour nous ce matin de savoir que Jésus a vécu ces choses, que tout ce que nous pouvons vivre, tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous vivrons encore dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, Jésus l'a vécu sur la terre. Jésus a vécu le pire supplice qu'un homme pouvait vivre sur la croix. Et c'est pour cela que maintenant, Jésus, il nous comprend. Il nous comprend parfaitement. Dans n'importe quelle situation où on est, il nous comprend parce qu'il a vécu. Et que cela puisse être pour nous un encouragement aussi, pour cette semaine qui vient, qui s'ouvre devant nous, de savoir que Jésus, il nous aime tel que nous sommes. Il nous connaît. Il connaît nos défaillances, il connaît nos besoins physiologiques, nos besoins d'affection, nos besoins d'amour. Il connaît toutes choses. Que nous puissions vraiment nous mettre confiance, mettre toute notre confiance en lui ce matin. Amen. Avant de passer aux 6e et 7e paroles, j'aimerais qu'on puisse prendre un chant tous ensemble. Montre-moi l'aurore, et on va chanter pour commencer les strophes 1 et 2. Et je vous propose de rester assis pour chanter ces deux premières strophes. Montre-moi l'aurore, strophes 1 et 2. Les paroles se rapportent vraiment à ce passage de la crucifixion. Et j'ai eu à cœur qu'on puisse chanter ce chant pour illustrer aussi ce partage. La sixième parole, qui a aussi tout son impact, se trouve dans Jean 19, verset 30. Jésus dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, donc lorsqu'il a dit « j'ai soif », ils lui ont donné donc, ce vinaigre que Marc relate. Ils lui ont donné ce vinaigre donc, au bord d'une verge, au bout d'une verge. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Quelle parole! Nous voyons dans ces trois mots, Jésus apportant la touche finale. Ce tableau avait commencé à être peint il y a 33 ans, quand Jésus était venu sur la terre. Et là, en 24 heures, ce tableau a reçu les derniers coups de pinceau, le faisant passer d'un tableau standard, Van Gogh, Rembrandt, à une œuvre d'art divine, inimitable, éternelle. Et là, j'ai un exemple, il s'appelle Jean Schott. Alors, je n'ai pas pris l'exemple du nom de famille juste parce que je m'appelle aussi Schott, mais Jean Schott est un artiste missionnaire qui est sur Lyon et qui a créé donc l'association Majestart. C'est un artiste peintre et il nous a fait une démonstration de peinture lors de la rencontre de jeunes Pâques 2014 à l'IBG, donc en avril dernier. Et il avait mis donc sur la scène un énorme tableau vide, sans rien, vierge. Et là, il commençait à peindre avec une musique de fond. Il commençait à mettre des coups de pinceau dans tous les sens. On ne voyait pas du tout qu'est-ce que ça allait pu nous donner à la fin. Et il continue toute sa peinture pendant 3, 4, 5 minutes. Il peint des coups de pinceau dans tous les sens. On n'arrivait pas à voir qu'est-ce que ça allait donner à la fin. Et il suffisait à la fin qu'il rajoute 3, 4, 5 petits coups de pinceau. Et là, je vais dire 7 coups de pinceau, en faisant référence aux 7 paroles de Jésus. 7 coups de pinceau pour faire découvrir le visage d'une personne levant les yeux vers le haut, vers le ciel. En 7 coups de pinceau, il a pu donner du relief à un tableau, à une peinture qui paraissait, disons, sans sens. Il n'avait aucun sens. On ne voyait pas du tout qu'est-ce que ça pouvait donc avoir l'air d'être. Et en quelques coups de pinceau, il a pu donner du relief et dessiner un portrait d'une femme qui regardait vers le haut. Et là, nous pouvons faire aussi ce parallèle avec cette phrase « Tout est accompli ». Et ces paroles que Jésus a prononcées sur la croix. C'est par ces paroles que nous pouvons voir toute la puissance de la croix. C'est dans ces trois mots que cette puissance de la croix se manifeste pleinement. Parce que Jésus a tout accompli. Tout était accompli. Il a accompli la volonté de son Père jusqu'au bout. Il a persévéré jusqu'au bout. Il a obéi à son Père jusqu'au bout. Et il a dit cette parole alors qu'il était abandonné de Dieu. Il était encore loin de Dieu. Dieu, il s'était éloigné de Jésus. Mais il savait, Jésus, qu'il avait accompli la volonté de son Père jusqu'au bout. Et nous voyons aussi dans ces paroles une sérénité. Nous voyons une autorité dans ces paroles, dans ces trois mots. Tout est accompli. Seul Jésus, qui est la parole de Dieu, pouvait dire ces mots. Jésus qui était en réalité le dernier prophète sur la terre. Il était annoncé par les anciens prophètes qu'il viendrait un dernier prophète. Et c'était Jésus. Jésus a tout accompli. Il n'avait plus besoin de prophète après Jésus. Parce que Jésus avait tout accompli sur la croix. Quelle parole ! Cette parole nous montre trois choses. Elle nous fait la promesse que ce sacrifice de Jésus a été réalisé une fois pour toutes. Les juifs avaient donc encore des traditions, des lois de Moïse, des prophètes, où il fallait à chaque fois qu'il y ait effusion de sang, donc ils devaient à chaque fois faire un sacrifice de différents animaux, des agneaux, et il fallait qu'il y ait effusion de sang pour que la personne qui apporte donc cet animal soit pardonné. Et il fallait chaque jour revenir avec son animal et à chaque jour refaire des sacrifices. Mais là, à ce moment-là, Jésus, sur la croix, a fait couler donc son sang pour nous une fois pour toutes. Et c'est pour cela qu'il a pu dire « Tout est accompli ». Une deuxième chose, cette parole abolit la loi et la remplace par la grâce. Aujourd'hui, nous pouvons dire que oui, par la foi, nous croyons que Jésus, une fois pour toutes, a vaincu la mort sur la croix. Que son sang qui a coulé sur la croix nous rachète de toutes nos fautes, une fois pour toutes. Et quel bonheur, quelle grâce lorsque nous pouvons aussi accepter cela. Et donc une troisième chose, je l'avais déjà dit tout à l'heure, cette parole conclut le ministère de Jésus sur la terre. En tant que dernier prophète. Quelle bonne nouvelle que ce matin nous puissions encore nous réjouir de savoir que Jésus est allé jusqu'au bout. Qu'on puisse le remercier encore qu'il soit allé jusqu'au bout et qu'il ait pu dire cette phrase « Tout est accompli ». Enfin, et là nous voyons que j'ai rapproché donc les dernières paroles vraiment au niveau de la 9e heure, ce qui veut dire donc 15h de l'après-midi. Jean 19, verset 30, nous relate la 7e et la dernière parole de Jésus sur la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il est dit juste avant, donc dans Luc 23, verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte. Et lorsque nous faisons le rapprochement avec Marc 15, verset 37, « Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. » On peut supposer que ce grand cri était donc « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Marc n'a pas tout relaté. Nous voyons cette précision dans l'évangile de Luc. Jésus part en vainqueur. Jésus part en paix. Et là, sa dernière parole revient à son Père. Son Père, qui est loin de lui, qui est séparé de lui par les ténèbres qui environnent la croix, qui sont entre Dieu, entre son Père et Jésus sur la terre. Mais il lui fait quand même cette prière, parce qu'il sait que tout est accompli, il peut partir en paix, et il remet donc son esprit entre les mains de son Père. Nous voyons juste après le voile qui se déchire, le voile du temple qui se déchire. Au verset 38 du chapitre de l'évangile de Marc, Marc 15, verset 38, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Quel témoignage ! Jésus a eu une mort surnaturelle. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est crucifié sur la croix, était mis d'une sorte que il mourait par asphyxie, par suffocation. Donc c'était surnaturel, c'était surhumain, que juste avant de mourir, la personne le crucifié puisse encore crier et puisse encore parler. Juste avant d'expirer, Jésus a encore crié d'une voix forte, « Père, je remets entre tes mains mon esprit. » Et là, nous voyons que Jésus était aussi pleinement Dieu. Jésus avait la maîtrise sur tout. Il savait que tout était accompli. Il avait expié nos péchés sur la croix. Et maintenant, il pouvait mourir. Ce grand cri, nous pouvons le voir comme un grand cri de victoire. Parce que Jésus a gagné cette bataille. Il a gagné cette dernière bataille qu'il a dû mener contre son ennemi, le diable. Le diable a tout fait durant ce chapitre, durant ce passage, pour que Jésus n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Il a mis tout le monde contre Jésus. Jésus a même refusé du vin mêlé de myrrhe au début pour ne pas calmer sa douleur. Il voulait aller jusqu'au bout, porter les souffrances jusqu'au bout, les réelles souffrances. Et lorsque nous voyons maintenant ce voile déchiré de haut en bas, c'est un autre signe surnaturel. Aucun homme ne pouvait déchirer le voile du temple du haut vers le bas. Oui, du bas vers le haut, c'était possible. Mais du haut vers le bas, c'était impossible. Donc nous voyons également sur ce verset la main divine. C'est Dieu, le Père, qui a déchiré le voile du temple, qui séparait le lieu du temple avec le lieu très saint, dans lequel personne n'avait accès à l'époque. Mais Dieu a déchiré ce voile. Parce que par la mort de Jésus, maintenant nous avons accès à ce lieu très saint. Nous avons accès au Père par Jésus. Par la mort de Jésus, nous pouvons maintenant avoir accès à notre Père. Nous pouvons prier notre Père au nom de Jésus. Quel privilège, quelle joie. Le chemin du lieu très saint nous a été révélé. Nous pourrons encore donc dire tellement de choses sur ce passage. Mais pour conclure, j'aimerais retenir ce matin trois paroles, trois points essentiels de cette crucifixion de Jésus sur la croix. Jésus est toujours prêt à nous pardonner. Même sur la croix, alors qu'il souffrait pour nous, il a encore pardonné les gens qui l'entouraient, les gens qui se moquaient de lui, les gens qui l'avaient torturé. Jésus ne nous abandonnera jamais. Il restera toujours fidèle avec nous. À nous maintenant de rester fidèles envers lui. Coûte que coûte. Quoi qu'il arrive dans notre vie, sachant que lui sera là. Comme aussi nous l'avons entendu dans le psaume 139. Il sera devant et derrière nous. Et sa droite sera toujours avec nous. Il nous tiendra par sa main droite, par sa main puissante. Et une dernière chose, un dernier point. Tout a été accompli une fois pour toutes sur la croix. L'évangile est simple. L'évangile, il est parfait. Croyons simplement. Amen. Je vous propose maintenant de chanter les troisième et quatrième strophes du chant qu'on a chanté tout à l'heure. Donc montre-moi l'aurore. Strophes 3 et 4.
Thank you.